Merci beaucoup. La diaspora juive, histoire et interprétation. D'abord, l'histoire. La première migration dans l'histoire des Juifs, ou de ceux qui plus tard s'appelleront Juifs, date du 8e siècle avant l'ère chrétienne. Si bien que, vous le voyez, ces migrations, cette dispersion, se déroulent sur presque 3000 ans. Alors essayons d'en dégager les principales scansions, d'organiser cette histoire profuse autour de périodes assez nettement distinctes. Je propose d'en distinguer quatre. D'abord, les diasporas avant la diasporisation. La première migration dont je parlais à l'instant, ou à laquelle je faisais allusion, s'est produite sous le signe de la contrainte. Les Assyriens conquièrent et détruisent le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume biblique du Nord qui a succédé au royaume de Salomon lors de sa division. Et les classes dirigeantes et les ouvriers spécialisés sont déportés et dispersés en Assyrie à la fin du 8e siècle, en 722. Et puis une seconde migration, près de 150 ans plus tard, est tout aussi forcée. C'est celle des déportés de l'autre royaume, le royaume du Sud, royaume de Juda, au début du 6e siècle, lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, conquiert Jérusalem et envoie en exil plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Mais lorsque la plupart de ces déportés à Babylone reviennent à Jérusalem, lorsque le nouvel empire perse autorise ce retour, c'est le fameux décret de Cyrus, certains des déportés ne rentrent pas, ne reviennent pas à Jérusalem. Il y aura des Juifs ainsi dans l'empire perse. Selon le récit du livre d'Esther, l'ennemi des Juifs, Haman, conseille au roi Assuérus de faire périr tous les Juifs en lui disant « Il y a un peuple dispersé et vivant à part au milieu des peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Il ne convient pas pour le roi de les laisser tranquilles. Toutes les provinces de ton royaume. On trouvait des déportés du temps de la victoire babylonienne dans les régions d'Asie mineure conquises ensuite par les Perses, par exemple à Sardes, dans la Lydie de Crésus, c'est-à-dire en Asie mineure, à l'ouest de l'Asie mineure, puisque une addition aux visions du prophète Abdias envisage le retour en Judée des déportés de Jérusalem qui sont à Sépharade. Et Sépharade, c'est Sardes, en langue perse, Sparda. Des habitants de l'ancien royaume de Juda ont, eux, volontairement quitté la Judée pour se faire soldats mercenaires en Égypte, à Assouan, au service de la Perse qui occupe alors le pays. On a donc toutes les provinces de ton royaume, au moins de l'Asie mineure, jusqu'à la Haute-Égypte, jusqu'à Assouan. Les départs depuis la Palestine pour les pays proches, Égypte et Syrie, s'accéléreront à l'époque des successeurs d'Alexandre le Grand. Pour certains historiens, l'Égypte du temps des Ptolémées a compté 300 000 Juifs, qui pouvaient représenter 3% de la population. Et selon le témoignage de Flavius Joseph, les Juifs affluèrent à Antioche, en Syrie, peu après la fondation de la ville, à Antioche où les souverains, les descendants de Séleucos, le général d'Alexandre, leur permirent, dit-il, de vivre en sécurité et leur accordèrent droit de cité à égalité avec les Grecs. Mais, ajoute Flavius Joseph, qui écrit au 1er siècle de l'ère chrétienne, vers l'an 80, dans le dernier quart donc du 1er siècle, si c'est en Syrie que les Juifs sont le plus nombreux, le peuple juif, écrit-il, est largement dispersé parmi les nations sur toute la terre habitée. Donc on a déjà une diaspora très vaste. Et les Juifs dispersés étaient d'autant plus nombreux dans les diasporas, diront certains historiens, que leur prosélytisme était ardent et qu'ils réussissaient à gagner des armes. La question, à vrai dire, de l'existence et de la chronologie de ce prosélytisme est âprement discutée. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus, dans un discours à Jérusalem, s'en prend aux pharisiens et déclare « Malheur à vous, vous qui parcourez la mer et la terre sèche, pour faire un seul prosélyte. Il se pourrait que le prosélyte en question soit en fait un juif qu'il s'agit de convertir au mode de vie pharisien. Mais reste qu'une sorte de mission, serait-elle non organisée, traverse mer et terre sèche. Donc les pharisiens parcourent les mers pour trouver les juifs à convertir à leur propre mode de vie. C'est l'indice d'une dispersion très large. L'apôtre Paul se proposait, selon son propre témoignage, de se rendre en Espagne. On en déduit généralement qu'il existait en Espagne des communautés juives où Paul pensait trouver un terrain favorable pour son action. Et au-delà des frontières de l'Empire romain, la souveraine d'un royaume d'Adiabène, dans ce qui est aujourd'hui le Kurdistan irakien, la reine Hélène, devient juive dans la première moitié du 1er siècle de l'ère chrétienne et des communautés juives fleurissent dans l'Empire parthe. Alors, ces diasporas devaient logiquement prendre de plus en plus d'importance à mesure que la communauté politique en Palestine se défaisait. Certes, les Romains, au lendemain de l'écrasement de la grande révolte contre Rome et la destruction du peuple du temple de Jérusalem en l'an 70, n'avaient évidemment pas exilé les habitants juifs du pays. Quelques textes talmudiques, d'ailleurs tardifs, font tenir à la divinité elle-même des propos où elle se reproche d'avoir détruit sa maison, brûlé son temple, exilé ses enfants. Où ces textes encore dénoncent Rome, coupable d'avoir, et la formulation est identique, détruit notre maison, brûlé notre temple, exilé nos enfants. Rome a exilé nos enfants. Rome ne pratiquait pourtant pas la déportation des populations vaincues, comme l'avaient fait les anciens empires assyriens ou babyloniens. Mais les rédacteurs de ces textes dressaient un parallèle entre les deux destructions du temple, deux destructions d'un État, la destruction par les Babyloniens en 587 avant l'ère chrétienne et celle par les Romains. D'un côté, cette destruction par les Romains avait été voulue par Dieu pour châtier un peuple infidèle, et de l'autre, le peuple qui servait en cette deuxième fois d'instrument à Dieu pour effectuer ce châtiment, le peuple romain, se servait des mêmes moyens qu'avaient utilisés le premier, les Babyloniens. Il fallait parler d'un exil. En même temps, le parallélisme, dans l'époque qui suivit immédiatement la destruction de 70, était aussi porteur d'espoir. Si le temple avait été détruit par les Babyloniens mais reconstruit quelques décennies plus tard, le second temple détruit par les Romains devait lui aussi être rebâti. Le besoin théologique de parallélisme fut d'autant plus facilement satisfait que si la puissance romaine n'avait pas exilé les Juifs en l'an 70, elle interdit par contre aux Juifs d'habiter Jérusalem au lendemain de la défaite de la seconde révolte juive, celle des années 132-135. La Judée se dépeupla. C'est d'ailleurs alors que pour lutter contre cette politique romaine, les textes hébraïques commencent à appeler couramment la terre qu'ils avaient longtemps continué à désigner comme terre de Canaan, ou comme simplement la terre, a appelé donc cette terre « terre d'Israël ». Après la transformation de Jérusalem en ville romaine, à Aelia Capitolina, vint au temps de l'Empire romain chrétien puis byzantin une politique résolue de christianisation de la Palestine. En fait, y a-t-il une séquence historique précise qui est celle d'une grande césure entre un monde juif divisé entre une communauté politique territoriale et des diasporas et un monde juif définitivement diasporisé? La réflexion juive durant tout le premier millénaire de l'ère chrétienne hésita. Et, me semble-t-il, les historiens modernes sont tout aussi incertains. J'ai évoqué les textes qui mettent en parallèle les deux destructions, par Babylone et par Rome. Mais pour les auteurs d'autres sources talmudiques et midrashiques, apparemment peu impressionnés par la recréation d'un État à l'époque des Maccabées, et surtout attentif aux grandes évolutions de l'histoire universelle, le schéma des quatre empires offert par le livre de Daniel impliquait que depuis la destruction du temple par les Babyloniens, Israël n'avait cessé d'être assujetti aux empires qui s'étaient succédés, babyloniens, perses, hellénistiques, romains. Il n'y avait alors rien de fondamentalement neuf dans la domination de Rome. sinon que cette domination se prolongeait. La Rome chrétienne et l'Europe chrétienne symbolisée par Rome succédant à la Rome païenne. Et les historiens modernes. On voyait au XIXe siècle, dans la destruction du Temple en 70, la grande coupure. Pour les penseurs et théologiens juifs, ou historiens du mouvement de la Wissenschaft des Judentum, dont on vient de parler, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, la destruction de l'ancien État était une chance. Et la construction d'un judaïsme confessionnalisé et déterritorialisé, la marque d'un progrès spirituel. Les historiens antiquisants, marqués par le discours chrétien, insistaient eux aussi sur le tournant vers la dépolitisation du judaïsme que représentait la destruction du Temple. Les historiens de l'école appelée École de Jérusalem, dans les années 20 à 70 du siècle passé, n'est-ce pas, de 1920 à 1970 environ, étaient enclins à en rabattre sur l'importance de la défaite de la révolte face à Rome en l'an 70 et à souligner le caractère très progressif de cette dépolitisation et de cette diasporisation du judaïsme dans laquelle la politique de l'Empire romain chrétien a joué son rôle. Les historiens des dernières décennies ont tendu à réévaluer cette politique de l'Empire romain chrétien en un sens positif, à mesure que l'Antiquité tardive faisait de façon générale l'objet de nouvelles lectures, en même temps qu'ils ont souligné l'extraordinaire efflorescence de la culture juive post-biblique dans la Palestine des 4e, 6e siècles. Il faut bien qu'il y ait eu en Palestine encore, ou à nouveau, une population juive active pour qu'elle puisse être porteuse de cette culture aux multiples expressions. D'un autre côté, les mêmes historiens de la toute dernière génération sont portés à tenir à nouveau la destruction du Temple en 70 pour un tournant essentiel. On passe d'un régime, disent-ils, où les Juifs continuent en fait, jusqu'en 70, malgré l'occupation romaine, à s'auto-gouverner, une répartition instable des pouvoirs s'étant instaurée entre les descendants du roi Hérode, qui appartiennent donc à la maison royale hérodienne, les grands prêtres et le procurateur romain. On passe de ce régime à un régime clair de sujétion. Et de l'autre, les dévastations créées par la guerre, les mesures punitives, sont réévaluées à la hausse. Donc on est loin en fait d'une appréciation d'ensemble sur laquelle se serait fait, au-delà des nuances, un accord entre les historiens. En tout cas, à partir des 3e, 4e siècles, grandissait le rôle de la communauté juive dans les régions de l'ancienne Mésopotamie, entre l'Euphrate et le Tigre, placée sous la domination de la dynastie sassanide, perse. Le Talmud, dit Talmud de Babylone, s'imposa dans l'ensemble du monde juif face à un Talmud, dit Talmud de Jérusalem, relativement négligé. Entre le 4e et le 8e siècle, entre la christianisation de l'Empire romain et les bouleversements qui suivent au Proche-Orient les conquêtes de l'islam, la vie des juifs devient pour l'essentiel une vie en diaspora. D'où, deuxième grande période, deuxième moment, les diasporas, 8e, 15e siècle. Durant cette période, le Moyen-Âge juif, on peut distinguer à gros traits deux mouvements de migration, deux diasporas. D'un côté, des juifs passent de la Méditerranée orientale sous domination byzantine aux régions que Byzance contrôle en Méditerranée occidentale. Ils s'installent en Italie du Sud, où une culture juive fleurit pendant plusieurs siècles, entre 8e, 9e et 11e siècle. Ils remontent ensuite la péninsule italienne, bifurquent vers l'ouest en direction de la Provence et du Languedoc, ou poursuivent vers le nord, soit vers la France du Nord, soit vers la vallée du Rhin. La France du Nord, au siècle du Moyen-Âge central, 12e, 13e, les pays germaniques depuis le 12e siècle et ensuite sans interruption jusque vers 1450 pour donner une date commode, sont les centres de ce judaïsme qu'on appellera d'un terme qui a tardé à prendre une signification précise, Ashkénaze. De l'autre, donc deuxième mouvement de migration, le monde musulman, sous les dominations omeyyades puis abbassides, et ensuite, malgré sa fragmentation entre les différents centres de Bagdad, Le Caire ou Cordoue, ou grâce à cette fragmentation, offre des possibilités de brassage et de migration qui conduisent, surtout entre 9e et 12e siècle, à une extraordinaire efflorescence culturelle de l'Iran à l'Espagne. La majorité des Juifs, en fait, jusqu'au Xe siècle, vivent au Proche-Orient. Une culture juive spécifique, marquée par le lait judéo-arabe, se pérennise dans l'Espagne d'après la Reconquista chrétienne, tout en accueillant un modèle ashkénaze différent. Troisième grande période, le début des temps modernes, Early Modern History, avec des mouvements contradictoires vers l'Est, puis vers l'Ouest. L'Angleterre et la France avaient chassé leurs juifs vers 1300, l'Angleterre en 1290, la France en 1306, donc en gros autour de 1300, l'Europe de l'Ouest et du Centre, et l'Europe méditerranéenne leur emboîte le pas, en gros deux siècles plus tard, vers 1500 date ronde, et les Juifs se déplacent alors vers l'Est. Entre 1450 environ et 1520 environ, les principautés et villes du Saint-Empire romain germanique expulsent les Juifs, certes non à travers un décret d'expulsion général, puisqu'il n'y a pas d'autorité imposant ces décisions sur tout le territoire de l'Empire, mais à travers une accumulation d'expulsions locales. Après 1520, on peut dire que la présence juive dans les pays germaniques n'est plus que résiduelle. Chassés, les Juifs trouvent une terre de refuge en Pologne. Parallèlement, Europe méditerranéenne, l'Espagne expulse les Juifs de son propre territoire et de Sicile en 1492, puis du royaume de Naples en 1510 après qu'il en a fait la conquête lors des guerres d'Italie. Les Juifs séfarades partent alors, certes dans l'immédiat vers l'ouest au Portugal où on les convertit de force, mais surtout, sur plusieurs dizaines d'années, vers la Méditerranée orientale, vers l'Empire ottoman. Donc au nord de l'Allemagne vers la Pologne et au sud de l'Espagne vers la Turquie. Puis au XVIIe siècle, mouvement dans l'autre sens. Les Juifs sont toujours certes en majorité installés en Pologne ou en Turquie, mais les besoins de la reconstruction économique au lendemain de la guerre de 30 ans en Allemagne, une transformation générale des attitudes à l'égard des Juifs dans le sens d'une réduction de l'hostilité, ont pour résultat que des Juifs sont désormais à nouveau admis dans les pays d'Europe centrale et occidentale, surtout à partir, enfin on peut discuter d'ailleurs sur la chronologie fine, mais surtout à partir de 1650, date ronde, la révolution anglaise revient de facto sur l'expulsion des Juifs de 1290, la France de Louis XIV ne chasse pas les Juifs d'Alsace lorsqu'elle conquiert ces nouveaux territoires, et elle admet les Juifs convertis de force au christianisme en provenance du Portugal et de l'Espagne, d'abord comme chrétiens, et dans un second temps, en leur permettant de s'affirmer extérieurement comme juifs. Quatrième grande période, le tournant de la fin du XVIIIe siècle, l'émancipation et l'émigration dans les sociétés sans émancipation. Sur cette période qui va de 1780 à aujourd'hui, je voudrais souligner surtout deux phénomènes. Le premier, c'est l'existence d'un tournant. Avec la Révolution française, les Juifs se voient reconnaître l'égalité des droits, accès à la citoyenneté, deviennent partie prenante d'une société qui cesse de les tenir en lisière. Puis, d'ailleurs, dans le cadre du despotisme éclairé, Joseph II d'Autriche avait, dès le début des années 1780, avec une série de mesures et notamment une patente de tolérance, œuvré à l'abolition de lois discriminatrices et au désenclavement des Juifs. Et puis, deuxième phénomène, les sociétés où dans le monde résident les Juifs en majorité sont précisément celles qui sont le plus hostiles à l'accueil des Juifs sur un pied d'égalité, le plus hostiles à l'émancipation. La Russie tsariste, où réside le plus grand nombre des Juifs en Europe après le démembrement de la Pologne, mène à l'égard de ses sujets juifs, à la fin du XIXe siècle, une politique qui trahit à leur égard une hostilité déterminée. La Pologne a, après sa renaissance au lendemain de la Première Guerre mondiale, une politique envers ses citoyens juifs, qui d'ailleurs passe par plusieurs phases, mais qui est en tout cas pour le moins compliquée. D'où la migration vers les pays desquels les juifs attendent une amélioration de leurs conditions, pays d'Europe occidentale, Angleterre, France et surtout États-Unis, mais aussi pays neufs, Afrique du Sud, Argentine. Les États-Unis, à la suite du matraquage par la propagande anti-immigrée, adoptent en 1921 et 1924 des lois des quotas qui mettent de facto fin à l'immigration en provenance d'Europe. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les Juifs anciennement établis dans les pays arabes et musulmans, de l'Iran au Maroc, pays dans lesquels le passage à l'ère nationale ne s'accompagne pas uniquement d'une intégration sociale réelle dans le cadre national nouveau, migrent pour la plupart soit vers Israël, soit vers la France, soit vers d'autres destinations, Québec pour les Juifs marocains, Italie pour les Juifs de Libye, Californie pour certaines catégories de Juifs iraniens après la révolution islamique de 1979, etc. Voilà, très rapidement brossé, l'histoire de cet éclatement diasporique. Ensuite, le sens, les interprétations, le sens que les Juifs ont prêté à cette existence diasporique. Distinguons ici deux périodes. L'une où prévaut une interprétation ou une série d'interprétations à laquelle, auquel souscrivent les Juifs dans leur ensemble. Et puis une autre période, la suivante, dans laquelle des interprétations et des représentations très différentes entrent en concurrence. La première période, c'est celle de l'époque médiévale. Depuis l'entrée dans l'ère de la diasporisation définitive jusqu'à l'émancipation, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Durant toute cette période, la diaspora est saisie comme valeur négative et comme réalité transitoire. La diaspora, c'est d'abord l'exil. Un exil à deux dimensions. D'une part, précisément, l'éclatement géographique, la dispersion, et d'autre part, et peut-être surtout, une condition de dépendance, suivant la formule hébraïque, d'asservissement aux nations du monde. Le présent de l'exil est ainsi opposé à une grandeur passée et à un avenir, à l'époque qui s'ouvrira avec l'advenue du Messie, qui verra les Juifs, d'une part, se rassembler à nouveau dans la terre antique, fin de la dispersion, et d'autre part, redevenir maîtres de leur destin collectif en refondant une communauté politique indépendante. D'autres représentations, elles aussi largement partagées, coexistaient avec celles qui voient donc dans la diaspora, dans l'exil, un malheur et un châtiment. Ces représentations du malheur et du châtiment étaient nécessairement très proches des représentations chrétiennes qui faisaient de la dispersion et de l'exil juif le châtiment du refus juif d'accepter Jésus. La différence ne portait que sur la nature des péchés châtiés par Dieu en infligeant le châtiment de l'exil. On pouvait promouvoir alors, pour faire face aux défis chrétiens, une représentation positive de la dispersion. D'abord, en soulignant que les Juifs ne cessent d'être chéris de la divinité où qu'ils résident. autrefois à Babylone, ou aujourd'hui dans Rome, désormais chrétienne. Ensuite, en faisant de l'éclatement diasporique l'instrument d'une mission, celle de répandre partout le monothéisme ou même le seul judaïsme. Ainsi faisait déjà un passage talmudique, la divinité a exilé, je cite, « a exilé Israël uniquement pour que des prosélytes s'ajoutent à eux. Pourquoi semer une mesure, sinon pour récolter 30 mesures ?» La décomposition même du corps politique pouvait prendre un aspect, un sens positif, s'il était vrai, comme le voulait au XIIe siècle le penseur juif espagnol Judas Halévi, en reprenant à sa manière la parabole évangélique « Si le grain ne meurt », s'il était vrai qu'il fallait qu'Israël, tel le grain semé, tombe à terre et se désagrège pour être à même de faire pousser de futurs fruits. Se réclamer d'une diaspora mission, c'était aussi pour les Juifs se réapproprier le rôle que de façon voisine, mais au bénéfice du christianisme, leur avait réservé Augustin, Augustin d'Hippone, saint Augustin. C'est pourquoi, écrivait-il, n'oubliant pas la loi de Dieu, vous, les Juifs, écrivait-il dans son Contre les Juifs, Contra Judeos, vous la portez partout. Vous portez la loi de Dieu comme un enseignement pour les gentils et un opprobre pour vous. Vous ne la connaissez pas. Et vous la transmettez au peuple qui a été appelé depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, c'est-à-dire aux chrétiens. Voilà autant de représentations qui s'ajustaient, à vrai dire, mal les unes aux autres, mais qui coexistaient sans difficulté, d'autant plus qu'elles apportaient les unes et les autres des explications considérées comme plausibles de l'abaissement vu comme temporaire d'Israël. Ensuite, deuxième période, avec l'entrée dans l'univers de la citoyenneté, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les interprétations de l'existence diasporique allaient se pluraliser et offrir un des thèmes majeurs autour desquels différents mouvements et courants allaient se définir. Les courants religieux, orthodoxie, judaïsme libéral, ultra-orthodoxie. Autres courants, sionisme, socialisme. Je caractériserai rapidement ces cinq réponses en cherchant à montrer que chacune d'entre elles peut se réclamer de la tradition, qu'elle reformule certes, et si l'on veut, trahit ou instrumentalise, mais à laquelle en même temps elle emprunte des éléments qui ne sont pas seulement plaqués sur un discours en réalité venu d'ailleurs pour lui donner un vernis d'authenticité. Premier discours, le discours du judaïsme orthodoxe sur la diaspora. La question pour lui a été de réconcilier l'entrée dans la citoyenneté et l'ensemble des notions liées au messianisme avec le vœu du retour dans la patrie antique. La solution a été proposée très tôt par Moïse Mendelssohn dans la Prusse des années 1780. Mendelssohn s'autorise d'un texte dont on trouve dans la littérature rabbinique des versions diverses et qui interprète allégoriquement une adjuration que la jeune fille du Cantique des Cantiques formule par trois fois. « Je vous adjure, fille de Jérusalem, faites ceci, cela. » L'invocation triple est censée faire allusion aux trois serments que la divinité a prévu de prêter ou de faire prêter. Deux engagements sont pris par le peuple d'Israël, tenus de ne pas monter à l'assaut du rempart. Autrement dit, tenus de ne pas agir pour sa propre libération et son retour sur la terre ancienne. Et, deuxième engagement, en fait c'est le même que le premier, de s'abstenir de toute menée factieuse contre les peuples parmi lesquels il sera dispersé. En échange, ces peuples font serment de ne pas imposer à Israël un joug trop rigoureux. Ou, selon une autre version, c'est Dieu lui-même qui s'engage à faire que ce joug soit supportable. Ce texte a eu incontestablement un écho. Chaque fois qu'un mouvement messianique, que des exaltations se dessinent dans le monde juif, les dirigeants rabbiniques l'invoquent pour mettre en garde contre les déceptions prévisibles. Mais Mendelssohn va plus loin. Il appelle à l'installation dans l'attente. Et cette attente concerne un futur lointain, inactuel. Il s'agit d'expliquer que l'espérance messianique inactuelle n'est nullement contradictoire avec la citoyenneté. À ce discours font très rapidement écho les partisans de l'émancipation des Juifs, l'abbé Grégoire en France, ou l'historien et homme politique Thomas Macaulay en Angleterre. Je cite Macaulay, il écrit « Cela passe pour un argument de dire qu'un juif ne porte aucun intérêt à la prospérité du pays dans lequel il vit, parce que Dieu a prononcé que par des moyens inconnus et à une époque indéterminée, peut-être à 1000 ans d'ici, les juifs émigreront en Palestine. Est-ce que ce n'est pas la plus profonde ignorance de la nature humaine? Ne savons-nous pas que ce qui est lointain et indéfini affecte beaucoup moins les hommes que ce qui est proche et certain ? » Deuxième discours, celui du judaïsme réformé ou libéral, né au XIXe siècle et qui a supprimé de son credo l'espérance messianique dans sa dimension politique et qui a éliminé du rituel de prière celle des prières très nombreuses qui faisaient référence à cette espérance. En même temps, ce judaïsme libéral a retenu l'idée ancienne de la mission juive, attribuant ainsi un caractère positif à l'existence en diaspora. Mission saisie comme occasion de défendre un monothéisme censé satisfaire aux exigences de la raison et centré sur un discours éthique. En tout cas, orthodoxie et judaïsme libéral sont unis, au-delà de leurs différences, par une même ambition de confessionnalisation du messianisme et de conciliation de la citoyenneté avec l'appartenance juive. Troisième discours, tout à l'opposé, le sionisme, né dans le dernier quart du XIXe siècle, dans cette Europe de l'Est où l'émancipation et l'accès à la citoyenneté ne paraissent pas à l'ordre du jour, fait lui puissamment écho à la revendication d'un retour à la souveraineté et au rassemblement des exilés qu'exprimait le messianisme traditionnel. Il a eu en même temps très fortement conscience de s'inscrire en continuité avec la tradition dans sa dimension messianique et politique, et il a eu très fortement conscience en même temps de ce par quoi il était aussi rupture. Quatrième discours, celui de l'ultra-orthodoxie. C'est l'ultra-orthodoxie qui se constitue par étapes dans le courant du XIXe siècle, dans l'Autriche-Hongrie vers les années 1860, un peu plus tard en Russie. Cette ultra-orthodoxie élabore son discours théologique propre, tout particulièrement vers 1900 et dans l'opposition au sionisme. Face à l'appel à la mobilisation politique, puisque le sionisme exprimait sa revendication d'un retour à la souveraineté en utilisant les moyens de la mobilisation politique moderne, face donc à l'appel à la mobilisation politique, l'ultra-orthodoxie fait du récit des trois serments, ces trois serments dont je parlais tout à l'heure, et évoqués déjà par Mendelssohn à partir des sources anciennes, l'ultra-orthodoxie fait d'un quiétisme de principe, vous ne devez pas agir par vous-même, etc. Et en échange, Dieu se porte garant que votre condition ne sera pas trop rigoureuse. L'ultra-orthodoxie fait du récit des trois serments la pierre d'angle de son système. l'abstention, le rejet des initiatives humaines, par nature comme blasphématrices puisqu'elles font concurrence à l'initiative divine seule légitime, deviennent le critère central de la fidélité religieuse. Enfin, autre discours, dernier ordre de discours, quelle représentation chez les juifs qui ne s'inscrivent plus dans les perspectives religieuses traditionnelles ou renouvelées. Des socialistes qui tiennent à ancrer leur engagement socialiste dans une forme de fidélité juive ont pu trouver dans les propos du poète Henri Heine, un écho à leur propre sensibilité. Heine écrit, il déclare avoir appris d'un rabbin polonais la légende, effectivement bien documentée, d'un messie qui souffre parmi les pauvres, aux portes de Rome, et qui est enchaîné. Il a réagi en écrivant « Ne te décourage pas, beau messie, qui ne veut pas seulement libérer Israël, comme l'imaginent les juifs superstitieux, mais toute l'humanité souffrante. » De même que dans les conditions nouvelles du XIXe siècle, qui substituent les acteurs collectifs aux anciens personnages individuels qui occupaient l'histoire tout entière, de même que donc dans le sionisme, c'est aux juifs eux-mêmes d'agir sans attendre un messie dont l'envoi dépendrait de la volonté divine, de même, pour Heine, ce n'est plus le messie individuel qui doit se délivrer de ses chaînes pour œuvrer à la rédemption du peuple qu'il doit guider, mais un messie collectif, les classes opprimées, qui doivent se libérer de leurs chaînes pour œuvrer à l'émancipation de la société tout entière. Il me plaît de terminer sur cette citation de Heine. Merci.